Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec joie que je reçois Christian Faureau, directeur des affaires culturelles de Nogent-le-Rotrou, administrateur des Amis du Perche de Ré-Loire. Il aime beaucoup travailler sur les grandes figures du Perche. Aujourd'hui, il vient évoquer pour nous deux personnages très importants dans le Perche, Simon-Nicolas-Henri Linguet et Perrine Buté, née Poulet. Christian Faureau, bonjour.
Bonjour, Christiane Blain.
Alors, tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ces personnages qui comptent beaucoup et à Nogent-le-Rotrou et au XVIIIe siècle?
Parce que ce sont des personnages importants, comme vous l'avez dit, je m'intéresse à l'histoire locale.
Oui.
Voilà, et intéressons aux étamines notamment et aux étaminiers. Je suis tombé sur la famille Buté qui est liée, on aura l'occasion d'y revenir certainement, à Perrine Poulet.
Voilà. Alors peut-être justement les étamines à Nogent-le-Rotrou, c'est très connu, il y a eu beaucoup d'articles dans les cahiers du Perche justement. Alors il faudrait pour nos auditeurs peut-être évoquer la famille Buté, puisque Madame Buté, qui est née Poulet, les Buté étaient en fait les descendants maternels des propriétaires de Saché.
Alors les Buté achèteront, oui, le château de Saché ultérieurement, et ils étaient surtout avant tout et au départ des marchands, des commerçants.
Des commerçants. Alors, comment ça se passe? Parlez-nous donc de ce Jean Buté. Ou plutôt de comme vous voulez.
Jean Buté, en fait, c'est un jeune négociant qui poursuit la carrière telle qu'elle a pu être faite aussi par ses ascendants, ses parents, ses grands-parents, etc., puisque ce sont des commerçants avant tout.
Des commerçants tourangeaux.
De Tourangeau. Bien, il y en a déjà un certain nombre, on va dire, sur la Touraine qui exerce cette profession-là. Donc, ils élargissent en quelque sorte leurs actions, ce qui fait qu'il y a un Jean Buté qui va arriver à Nogent-le-Rotrou pour le négoce d'étamines.
Voilà. Alors, les étamines, c'était très important à Nogent-le-Rotrou?
Oui, c'était même la production, majeure de Nogent-le-Rotrou.
Oui.
Alors, il y avait toute l'activité agricole, artisanale,
oui,
on va dire, de base.
Oui, on est en quelle année, là?
Je pense que pour la production d'étamines, il faut dire que c'est tout le XVIIIe siècle,
oui,
en fait, qui est
mais
concerné.
Mais pour Jean Buté, c'est 1755, à peu près.
Oui, c'est ça, voilà. Et après, on va dire que plus on se rapproche de la période révolutionnaire, plus la production d'étamines va chuter, puisqu'il y a une grave crise économique, qui sera une des raisons sans doute de la révolution. Mais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'à les années 1750, jusqu'à même 1780, la production d'étamines donc, compte beaucoup et occupe environ, on pense, la moitié de la population nogentaise.
Et la population nogentaise au milieu du XVIIIe siècle, elle est de combien d'habitants?
Elle est estimée à 6000 habitants.
6000 habitants. Donc, 3000 habitants vivent des étamines.
Alors, peut-être pas de manière permanente, mais au moins ont une activité qui est liée à un moment ou à un autre. Parfois, c'est un revenu complémentaire, etc., notamment pour les femmes.
Oui.
Mais néanmoins, ils sont en relation avec cette production.
Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe. Il y a les moutons, et c'est comme ça qu'ils ont l'idée de...
Oui, alors je sais pas, moi, l'origine, le point de départ, qui, parce qu'il y a sans doute eu quelqu'un qui a eu l'initiative, en quelque sorte, de lancer cette production-là, et ça va se développer de plus en plus, sans doute qu'il y a des gens aussi qui attendent du travail, etc. Il y a toute une série de phénomènes, il y a des gens qui se lancent dans le commerce, dans le négoce, donc Nogent-le-Rotrou va devenir une des places florissantes pour la production d'étamines, parce que Nogent-le-Rotrou, je pense qu'on l'a oublié aussi, a une réputation nationale à cette époque-là. C'est-à-dire que quand on cite les différents lieux, pour la production d'étamines, il y a Reims, il y a Amiens, il y a Le Mans et Nogent-le-Rotrou obligatoirement.
Oui. Alors, est-ce qu'il y avait, on travaillait chez des artisans ou en fait on travaillait chez soi, comme pour la dentelle par exemple, et on redonnait après aux responsables?
Il y avait les deux, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient chez eux, qui pouvait avoir un métier. Voilà, on estime qu'il y avait, enfin on estime, c'est Claude Cailly qui le dit, qui est un professeur d'université, qui a consacré une grande partie de son œuvre et de sa vie à la production, enfin à l'étude de l'industrie du Perche. Voilà, et donc on estime qu'il y avait 480 métiers dans le Grand Perche, dont 440 à Nogent-le-Rotrou, qui était la ville la plus importante.
Oui, donc on peut penser qu'il y avait des gens qui travaillaient chez eux.
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y avait des gens à qui on amenait des ballots de laine, qui s'occupaient de dégraisser la laine, etc., qui le passaient après un peigneur qui peignait la laine, après alors un tellonnier qui avait une autre action sur la laine, etc., un foulonnier pour la tasser, la préparer, etc., après le teinturier, le fabricant, et puis ça allait chez le négociant, en passant via les foires, parce que ça aussi, il y avait des foires très importantes, et les marchés aussi, qui permettaient de vendre ces étamines.
Et on exportait ?
Oui, on exportait très très loin. Jusqu'à Saint-Domingue, on a retrouvé la trace des productions d'étamines. On estime même, enfin Claude Cailly estime qu'il y a la moitié de la production d'étamines qui était.
Et au château Saint-Jean, on peut voir
Non, alors malheureusement, il y a très peu. Je crois qu'on a un petit carré d'étamines qui reste, qui fait un 18e, début 19e. Mais en fait, il reste plus d'éléments, voilà, parce que c'était des métiers à tisser qui étaient chez les gens. Quand ils ne servaient plus, on a très, très, très peu d'éléments. On n'a que des éléments écrits, des archives principalement.
Et nulle part ailleurs, pas non. Plus à Nogent.
Non, malheureusement, non.
Oui, c'est dommage. Alors, Jean Buté, qui vient à Nogent, il va se marier.
Oui.
Alors, racontez-nous.
En fait, donc, il va se marier avec une jeune femme qui est aussi, on va dire, liée à la production, à la vente, au commerce, puisqu'elle est issue d'une famille de marchands, de Tours aussi. Voilà, et donc ils vont se marier.
Donc, Périne Poulet.
Périne Poulet, oui.
Épouse Jean Buté.
Épouse Jean Buté. C'est jeune, vers 18 ans environ. Voilà, et après ils viennent à Nogent-le-Rotrou parce qu'il y a déjà un membre de la famille Buté, le grand-oncle du mari, donc, qui est installé à Nogent-le-Rotrou.
Et est-ce qu'on sait où ils ont habité à Nogent-le-Rotrou ?
Alors en fait, moi, dans un acte, j'ai vu qu'ils étaient la place principale aujourd'hui qu'on appelle la place Saint-Paul.
Ah, voilà. Ils habitaient là.
Voilà, mais on n'a pas le lieu exact.
Voilà. Donc, ils habitaient...
Place du Marché.
Ils habitaient Place du Marché à Nogent-le-Rotrou. Et pourquoi ce Simon-Henri Linguet va-t-il rencontrer cette Madame Buté ?
Madame Buté, c'est quelqu'un qui a une belle éducation, qui s'intéresse aux lettres, qui lit beaucoup certainement, qui s'intéresse à l'actualité, aux nouveautés, etc. Voilà, et quand elle vient à Nogent-le-Rotrou, je pense qu'elle s'ennuie beaucoup.
Elle a des enfants,
elle a deux filles, oui. Assez rapidement, 2 ans après son mariage. Mais néanmoins, j'ai envie de dire que la vie nogentaise ne va pas la satisfaire. Donc elle se déplace, elle retourne à Tours régulièrement, mais elle va aussi à Paris.
Oui, elle va à Paris souvent. Et alors, parallèlement à cela, il y a Simon-Nicolas-Henri Linguet, qui naît à Reims, lui, en 1736.
Oui.
Donc les années correspondent, deux ans différents. Et alors lui, comment est-il ? C'est un enfant très intelligent, je crois.
Oui, c'est un enfant très intelligent. Alors il est né, lui, un peu par hasard, enfin par hasard. Pas tout à fait. J'ai envie de dire qu'il aurait dû naître à Paris, normalement. Mais son père a eu des problèmes avec le pouvoir royal,
oui.
Et il va être exilé. Parce que il était, on va dire, sensible aux idées d'un mouvement à l'époque qui s'appelait le jansénisme, s'opposait en quelque sorte à l'évolution de la religion catholique, mais en même temps qui était un mouvement politique. Et le pouvoir royal va tout faire pour contraindre ces gens, voilà, à ne pas se développer. Donc, ils vont exiler le père de Simon Linguet à Reims, parce que son père était professeur d'université.
Oui.
Et là, on va lui donner un poste beaucoup moins important dans un collège. Il va être sous-principal, tout simplement.
Si bien que le jeune enfant ne va pas suivre des études normales, je dirais.
Oui, c'est quelqu'un qui est très brillant, qui va aller au collège, etc., avec un niveau qui correspond peut-être juste avant l'entrée de l'université, donc aujourd'hui au niveau du baccalauréat, qui va même avoir 4 grands prix d'université dès le début de son entrée à l'université, mais il va pas pouvoir continuer, sans doute pour des raisons financières, semble-t-il, parce que son père peut pas payer sa pension à Paris ou autre, et donc il va choisir d'autres solutions de vie.
Alors, ces solutions, c'est de voyager.
Oui, c'est de voyager. C'est d'abord, comme c'est quelqu'un qui a quand même une culture solide, qui s'exprime très bien, qui écrit très bien, il se met au service de hauts personnages.
Alors, par exemple ?
Les hauts personnages, ça peut être le duc de Bavière, qui était le duc de Deux-Ponts, par exemple.
Oui.
Ça peut être aussi le prince de Beauvau. Là, il va en Allemagne avec lui, etc., dans différents pays, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, etc. Voilà. Pendant un certain nombre d'années,
Il va voyager.
Il va voyager.
Et en revenant, qu'est-ce qui lui plaît alors ?
En revenant, il se retrouve, je pense qu'il réfléchit à ce qu'il peut faire.
Oui.
Et finalement, il va décider, pour avoir une carrière qu'il peut mener, d'entamer des études d'avocat.
Mais je crois qu'il a fait un peu de journalisme aussi.
Il écrit, en fait, c'est quelqu'un qui continue à écrire. Comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui a une belle écriture, qui écrit très bien, qui s'exprime aussi aisément. Et donc, en même temps, il écrit beaucoup, il publie aussi en même temps un certain nombre.
Alors, je crois qu'il était ami avec Fréron, l'ennemi des philosophes.
Oui.
Et on connaît tous cette histoire, peut-être vous pouvez nous la dire.
Ben, en fait, il s'est opposé à Voltaire pendant très longtemps.
Oui, et cette histoire qui courait, il y avait un serpent qui... Pika, savez-vous ce qu'il advint ? Eh bien, c'est
Fréron qui mourut, qui creva, je crois même
qui
carrément.
Creva,
qui,
oui.
Voilà, exactement.
Donc vraiment l'ennemi des philosophes, et en plus on va voir qu'il est extrêmement caustique dans ses œuvres, dans ce qu'il écrit.
Oui, oui. Il écrit comme il est dans la vie, c'est-à-dire qu'il attaque. Frontalement, les gens, très souvent, voilà ce qui va faire qu'il aura beaucoup, beaucoup d'ennemis.
Donc, il embrasse la carrière d'avocat.
Oui.
Alors, qui défend-il ?
Ben, il défend aussi des hauts personnages, notamment le chevalier de la Barre, voilà, qui restera un peu célèbre pour des histoires aussi d'avoir un peu, entre guillemets, tenu des propos contraires à la religion.
Oui.
Voilà, il y aura aussi le duc d'Aiguillon, la comtesse de Béthune, par exemple.
Oui. Et la comtesse de Béthune, nous, on la connaît bien, nos gens le retrouvent.
Oui, parce qu'en fait, elle est liée sur une descendance du duc de Sully.
Voilà, et nous, le duc de Sully, c'est nos gens le retrouvent.
C'est nos gens le retrouvent, il y a son tombeau et il y a été seigneur aussi.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Christian Foureau, qui évoque pour nous deux vies passionnantes, la vie de Simon-Nicolas-Henri Linguet, un être qui a eu une vie extrêmement tumultueuse, et également Perrine Butté, une vie de femme du XVIIIe siècle, ouverte à la littérature, à la politique, avide de philosophie, une femme presque du XXe siècle, je dirais.
Oui, tout à fait, c'est vrai.
On pourrait dire ça. Alors, revenons, si vous le voulez bien, à Simon-Nicolas Henri Linguet. Nous savons qu'il était journaliste, et je crois qu'en tant que journaliste, il était très méchant.
Ah oui, il attaquait ses confrères très, très, très souvent, qui vont essayer de le faire interdire plusieurs fois, en faisant intervenir la justice, les ministères, le pouvoir royal, etc. Et parfois, ils y arriveront d'ailleurs à faire retirer certaines de ses œuvres ou de ses publications.
Oui, d'ailleurs, ils ont été très méchants parce qu'il y avait une charade qui courait. Alors, je vous la livre, chers auditeurs. Mon premier sert à pendre, mon second mène à pendre et mon tout est à pendre. Le résultat, la solution, à la fin de l'émission, ne nous quittez pas. Je répète quand même pour ceux qui n'ont pas tout entendu. Mon premier sert à pendre, mon second mène à pendre et mon tout est à pendre. Alors donc, il ne va pas se contenter du journalisme. Il est avocat. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je crois qu'il aime aussi beaucoup la poésie.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il va se lier d'amitié avec Dora, qui est un poète très, très, très important à cette même époque-là, qui écrit beaucoup de vers, mais aussi de poésie, etc., de romans. Ils vont, on va dire, travailler en quelque sorte ou avoir une émulation commune pendant un certain temps.
Et c'est ça qui plaît à Perrine Butté. Elle va lire des poèmes de ce monsieur.
Oui, très, très certainement. Voilà, parce que c'est une femme qui aime lire et qui aime écrire aussi.
Et est-ce qu'elle lui écrit?
Oui, elle va commencer. C'est-à-dire que quand elle le rencontre dans les années fin 1771, début 1772.
Elle est encore très jeune.
Oui, ses filles doivent avoir 12 ou 13 ans.
Oui.
Voilà, 12-14 ans, et elle va commencer un échange épistolaire, comme on dit, avec Simon Linguet. Parce que quand elle le rencontre à Paris, on ne sait pas trop bien comment, mais peut-être parce qu'elle en a entendu parler, parce que Simon Linguet est déjà quelqu'un de célèbre.
Oui, et qu'elle est à la recherche de poésie.
Et qu'elle aime aller voir peut-être du spectacle. Et le spectacle, c'est à l'opéra, comme vous disiez, mais c'est aussi dans les tribunaux. Parce qu'on vient, on se presse écouter Simon Linguet au tribunal, parce que c'est quelqu'un qui a une grande verve, etc. Alors on l'applaudit, les gens se déchaînent, etc.
Et vous avez une lettre d'elle?
Il y a des lettres qui sont conservées.
Et vous pouvez nous en lire des passages?
Oui, ces lettres en fait sont à la bibliothèque de Reims, le lieu de naissance donc, de Simon Linguet. Je peux vous lire des extraits.
Oui.
Une de ses premières lettres, où c'est le début de la rencontre en quelque sorte. Elle a dû lui écrire, elle le voit une ou deux fois, et elle lui écrit. Et là on voit qu'elle est tombée sous le charme, puisqu'elle écrit ceci. « Depuis l'instant que j'ai eu l'honneur de vous revoir chez vous, j'ai voulu me refuser la douceur de m'offrir à votre souvenir. Persuadé que le temps d'un homme de lettres est cher à la société, surtout lorsqu'il la sert avec autant par le courage de l'âme que par sa lumière. »
Oui, elle écrit bien.
Ah oui, elle écrit bien. Alors parfois, dans certaines de ses lettres, les formules sont... Parce que comme elle se targue aussi, comme vous le disiez, de philosophie, alors elle a des formules un petit peu alambiquées ou qui sont difficilement compréhensibles aujourd'hui pour nous.
Oui, par exemple.
Par exemple, et là, elle évoque aussi nos gens le retrouvent, parce qu'elle y dit « retirer du monde vivant ». Vous voyez comment elle considère, comment elle s'ennuie à nos gens le retrouvent.
Ah oui, « retirer du monde vivant », dit-elle.
Oui, « parlant pour vivre avec l'univers pensant éclairé », donc elle parle de lui dans ce cas-là, « je ne suis guère informé des ouvrages qui en paraissent que par la feuille qui les annonce. J'attendrai avec empressement, monsieur, tous ceux qui seront de votre choix. » Parce qu'elle lui demande des conseils de lecture en même temps, elle alimente les échanges. Sauf qu'elle dit « pourvu que ce ne soit ni roman, ni mathématiques pures, ni vers léger ». Donc elle a un goût aussi affirmé. Parmi le tout petit nombre de gens éclairés dans ce pays, voici comment elle considère les deux gens. Je m'y suis fait des amis et à vous des admirateurs. Parce que quand même, parmi les gens qu'elle fréquente, le peu de gens qu'elle fréquente à deux gens en trou, elle parle beaucoup, beaucoup de Simon Linguet, parce que tellement elle en est charmée en quelque sorte. Même à son mari d'ailleurs, qui je pense on aura assez vite assez, mais ça c'est autre chose. Voilà, et elle dit « Votre réponse au docteur moderne », c'était un ouvrage qu'il avait écrit, « et de la meilleure plaisanterie, lorsque vous daignâtes me l'offrir à Paris, j'en fus reconnaissante comme d'une honnêteté que je recevais.
Ah, »
À présent, je le
suis... C'est merveilleux d'entendre ces subjonctifs qu'on n'entend plus maintenant.
Non, mais elle écrit vraiment très bien. « À présent, je le suis du plaisir que j'en ai éprouvé à la lecture. »
Oui, donc voilà. Vraiment une correspondance qui fait que elle semble s'attacher à Simon Nicolas Henri Linguet.
Oui, mais c'est, je pense que c'est sa bulle d'oxygène en quelque sorte.
Et alors elle va quitter Nogent.
Oui, c'est-à-dire qu'elle fait plusieurs allers-retours Nogent-Paris. En plus, à un moment donné, Simon Linguet va être exilé à Chartres pendant quelques mois, suite à une affaire qu'il voulait défendre, qui était de l'affaire d'un militaire. Malheureusement, il va commettre l'imprudence, en quelque sorte, de publier un mémoire. Ça se faisait beaucoup aussi au XVIIIe siècle, pour défendre ses idées, avancer ses arguments, etc. On publiait des mémoires qu'on distribuait dans la foule, voilà, pour un peu influer sur la décision de justice. Là, il devait défendre Bellegarde, qui était un officier qui était passible du Conseil de guerre. Et en général, quand il s'agissait d'affaires de militaires, on ne publiait pas de mémoire. C'était un principe. Ce qui va énerver beaucoup le ministre pouvoir et chargé des affaires militaires, ce qui fait qu'ils vont l'exiler.
Ah oui.
Donc il va connaître aussi, lui aussi, une lettre de cachet, c'est-à-dire que le roi, hop là, va donner l'ordre qu'il quitte Paris.
Et donc il va aller en Angleterre.
Oui, peu à peu, ses ennuis, on va dire, s'amplifient, et il va à Londres, où il va s'installer pendant un certain temps, et Perrine Buttet va le suivre.
Voilà, elle l'accompagne, et donc elle quitte mari et enfant, et la voilà partie en Angleterre. Et ça, déjà, les philosophes parlaient beaucoup de l'Angleterre, puisque c'est un régime qui leur plaisait. Hein. Pour Montesquieu, c'était vraiment ce régime qui, la monarchie parlementaire, il n'y avait pas mieux. Donc il va pouvoir étudier. Et que fait-il à Londres ?
En fait, il va lancer une revue, un journal, qui va devenir très, très, très célèbre. Il s'appelle Les Annales, tout simplement. Mmh. Et ça va devenir célèbre. Pourquoi ? Je pense, moi, c'est parce qu'en fait, il va avoir une idée. C'est comme si c'est quelqu'un de très brillant. Très souvent, les journaux, ça relatait des faits. C'est-à-dire, c'était des journaux d'érudition, de connaissances, etc. Mmh. Lui, il invente d'une certaine manière, on peut considérer, le journalisme politique. C'est-à-dire qu'il donne un avis, voilà, il attaque, etc. Alors, ce qui fait qu'on attend, en quelque sorte, la publication à chaque mois de ce qu'il va pouvoir dire sur tel personnage, sur tel événement.
Oui, parce que Perrine Buttet, elle est aussi est très éprise et passionnée, je dirais, de politique. Donc, ils doivent vraiment discuter politique et peut-être écrire ensemble.
Oui. On ne retrouve pas trace de son écriture. Peut-être que c'était sous le nom, d'ailleurs, de Simon Linguet. Oui. Mais par contre, elle le soutient et elle le protège. Parce qu'il y a un Anglais qui a fait un peu état de leur passage à Londres, qui ne va durer que quelques mois, qui disait en quelque sorte que c'était son chien de garde. C'est-à-dire que c'était elle qui triait les personnes qui voulaient venir visiter Linguet chez elle, voilà, chez eux.
Oui.
Voilà, au domicile du couple. Certains pouvaient franchir le pas de la porte, d'autres pas.
Elle le protégeait.
Oui, tout à fait.
Alors, pas rester à Londres, il va partir.
Oui, il va partir. À Londres, en fait, c'est pour des histoires politiques, mais qui ne concernent pas. C'est-à-dire que la France, à l'époque, elle a des problèmes avec l'Angleterre pour suite à un traité d'alliance franco-américaine. Voilà, où la France s'engage à soutenir l'Amérique au cas où l'Angleterre se venait à attaquer le territoire américain. Ce qui fait que, comme ça sent le soufre, il préfère aller en Suisse. Mais en Suisse, on ne va pas l'autoriser à publier son journal. Donc il remonte et il va, cette fois-ci, à Bruxelles, où il va acheter une grande maison, où il va s'installer.
Donc ils s'installent tous deux à Bruxelles.
Exactement.
Et alors là, que fait-il ?
Il continue ses publications. Toujours, notamment les fameuses annales qui vont durer pendant un certain nombre d'années.
Ce sont des annales civiles, politiques et littéraires.
Oui, voilà, exactement. Il traite de tout. C'est un journal qui traite de la vie de la société en général.
Oui. Et il revient à Paris.
Ce qu'il n'aurait pas dû faire.
Oui, j'imagine.
Parce qu'en fait, il a quand même toujours ses ennemis. Le pouvoir royal l'a à l'œil. Voilà, et il va se retrouver enfermé.
Emprisonné
à la Bastille, parce qu'il a des affaires, il y a plein de gens qui ont porté plainte contre lui, etc. Et donc, il va se retrouver emprisonné à la Bastille pendant 18 mois.
Voilà. Et après, il retourne en Angleterre.
Oui, il retourne en Angleterre, voilà, quand la situation s'est apaisée, pour continuer ses activités.
Et alors là, en Angleterre, est-ce qu'il renoue avec les annales ?
Oui, pendant un certain nombre d'années aussi.
Oui. Et qu'est-ce qu'il publie ?
Période anglaise, je ne sais plus.
Je crois que ce sont les mémoires, justement, sur la Bastille.
Alors, il aura très mal vécu, vous avez raison, il aura très mal vécu sa période naturellement d'embastillement, ce qui fait qu'il va publier, lui, ses mémoires, et de la manière, justement, relater la manière dont il a pu vivre cet événement douloureux. Et ça va être d'ailleurs un très grand succès qui va être republié un certain nombre de fois.
Voilà. Et ce qui est amusant, c'est qu'il sait tout faire. parce qu'on peut aussi le retrouver menant campagne pour la réouverture des Bouches de l'Escaut.
Oui, par exemple. Alors aussi, il a parfois des initiatives étonnantes. Il a essayé d'ouvrir, de créer une usine à savon.
Ah oui.
À un moment donné, oui, de sa vie, voilà. Voilà. Il était, mais parce que aussi, c'était le savon, peut-être que c'était une matière, en quelque sorte, un produit qui était en plein développement. Donc, il se coule, lui aussi, dans l'actualité, dans la mode, etc.
Et même, je crois que le gouvernement autrichien était tellement content qu'il lui a accordé des lettres de noblesse.
Oui, tout à fait. Et c'est peut-être là que viendront ses ennuis futurs, même très certainement.
Alors, est-ce qu'il revient en France tout de suite ?
Il va revenir en France quelques années après. Là, alors je pense que il va continuer encore toutes ses activités, etc. Son ménage va pas toujours très très bien. Et parfois, il y a rupture, même à Londres aussi, avec Perrine Poulet, Perrine Butet. Et donc, parfois, ils se séparent, parfois, ils reviennent ensemble, etc. Mais c'est toujours une vie de couple un petit peu compliquée. Et lorsqu'il va revenir en France, en fait, il va s'installer à Marne-la-Coquette.
Oui. Et alors là, c'est pas rien non plus.
Oui, c'est pas rien non plus. C'est qu'un, bon, qui est très vite remarqué, puisqu'il est connu. Il va même devenir maire de Marne-la-Coquette.
Oui. Mais là, il est journaliste alors.
Oui, aussi, il continue toujours à être journaliste. Malheureusement, on rentre aussi dans la période révolutionnaire, en quelque sorte. On est toujours dans la période révolutionnaire.
Oui.
Parce qu'il est maire de Marne dans les années 1792. Par contre, on va dire que ces liens avec le pouvoir autrichien que vous évoquiez vont le rattraper. On va rentrer aussi dans une période dure de la Révolution. On va faire état justement de ces liens avec la noblesse et le pouvoir autrichien qu'on va lui reprocher. Et il va se retrouver aussi à nouveau enfermé.
Oui. Et alors là, en 1792, devant la tournure des événements, il abandonne le journalisme et la politique.
Oui, il essaye de se faire discret, en quelque sorte.
Oui.
Mais malheureusement, sa célébrité fait qu'on ne va pas l'oublier aussi facilement.
Voilà.
Ça.
La terreur va vraiment...
Voilà. C'est la terreur... c'est Robespierre qui, en quelque sorte, est important à ce moment de la Révolution. Et il y a la terreur révolutionnaire qui est en place. Donc, il va être jugé.
Oui.
Il va être jugé et il va être exécuté, tout simplement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va être exécuté, mais quand même, avant, il est resté 9 mois sans savoir...
Sans savoir ce qu'il va devenir. Il va être jugé un matin, en quelque sorte.
Oui.
Il n'aura pas le droit de se défendre. Et le jour même, on le décapite.
Voilà. Il est condamné, guillotiné, et ça, c'est en 1794.
Et en 1794, en pleine période de terreur, son épouse aussi, enfin, qui n'est pas son épouse, mais elle est considérée comme telle, d'ailleurs, très souvent par les gens, parce qu'ils sont habitués à la voir avec elle, avec lui. Donc, Perrine Poulet Butet va connaître aussi l'emprisonnement.
Alors, on peut dire qu'il a été condamné et inhumé dans le cimetière de Picpus.
Oui. Oui. Là où beaucoup de décapités étaient, en fait, dans une sorte de fausse commune.
Et alors maintenant, on peut peut-être donner la solution de la charade à nos amis auditeurs. Alors, mon premier, c'était donc quoi ? Celui qui...
Mon premier est à pendre.
Voilà.
Le premier sert à pendre.
Mon deuxième... Alors, mon premier sert à pendre, il s'agissait...
Du lin.
Du lin. Mon second aide à pendre. Et ça, c'était le guet, lingué, c'est son nom, mais c'est aussi autre chose.
Oui, c'est aussi un objet, en fait. C'est un crochet qu'on utilise dans la marine qui sert à accrocher une corde. Et donc, ça a aussi un lien avec la corde du pendu.
Voilà. Eh bien, un grand merci, Christian Foureau. Je crois que, vraiment, nous en savons beaucoup plus sur ces deux personnages nogentais.
Merci beaucoup à vous, Madame Blanc.